merci à l'équipe pastorale, à Pasteur Ben, Pasteur Jacques, toute l'équipe pastorale de m'avoir invité pour participer à cette magnifique série qui s'intitule « Trois en un », trois personnes en un seul Dieu. Et on regarde ensemble ce Dieu qui s'est révélé, en fait, dans la Bible comme étant trois personnes, mais en un seul Dieu. Nous n'adorons pas trois dieux, nous n'avons pas trois dieux, mais un seul Dieu qui est révélé dans les Écritures comme étant composé de trois personnes distinctes les unes des autres, mais indissociables, inséparables, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et combien savent que nous sommes bénis d'avoir ce Dieu extraordinaire qui est le seul Dieu, en fait. On en parle comme s'il y en avait d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il est l'unique Dieu, le Créateur de l'univers, qui existe depuis toute l'éternité et qui va exister pour toute l'éternité, qui sait tout, qui peut tout, qui est partout, qui contrôle tout et qui n'est surpris par rien de quoi que ce soit et à qui rien ni personne ne peut résister. Il est souverain, majestueux, magnifique, saint, amour et miséricordieux et encore plus que tout cela. Nous croyons dans ce que les théologiens ont appelé la Trinité, 3-1, Trinité, mais nous ne croyons pas dans la Trinité parce que nous la comprenons. Bien entendu. En fait, nous croyons dans cet enseignement biblique d'un seul et unique Dieu révélé en trois personnes distinctes et indissociables qu'on appelle la Trinité parce que la Bible nous le révèle, parce que la Bible nous parle du Père comme étant Dieu, du Fils Jésus comme étant Dieu et du Saint-Esprit comme étant Dieu. On y croit sans le comprendre, sans l'assimiler, parce que nous croyons que Dieu est plus grand que nous. Amen. Désolé de péter votre bulle, s'il y en a qui s'imaginaient que nous ne sommes pas des dieux. On n'a pas besoin de comprendre Dieu pour croire dans son existence et dans la révélation de qui Dieu est, tel qu'il sait qu'il est. Et parce que si on venait à comprendre Dieu, nous serions comme Dieu. Et Dieu serait juste comme l'un de nous. Mais comme nous ne sommes pas Dieu et que Dieu n'est pas nous, j'accepte le fait que je ne comprenne pas tout sur Dieu. J'espère que vous avez fait la paix avec ça. Je ne comprends pas tout sur Dieu et c'est correct, c'est normal. Dieu est plus grand que nous, Dieu est tout autre que nous. Et comme le disait si bien le prophète Isaïe dans son livre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il disait de la part de Dieu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est au-delà, c'est au-dessus, ce ne sont pas nos pensées et nos voix également. Dieu est tout autre et c'est pourquoi ça va nous prendre l'éternité pour saisir un peu de ce que Dieu est. Tout comme Jésus a prié à son Père, il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. » Ça va prendre l'éternité et on en a pour longtemps à connaître et à apprendre à connaître Dieu. Alors, ne vous découragez pas, ne vous en faites pas si vous avez beaucoup de choses encore que vous ne comprenez pas sur Dieu. C'est normal et c'est correct. La Bible dit encore, « Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. » Alors, aujourd'hui, je vous propose de laisser ce qui est caché et qui appartient à Dieu. On va laisser ça à Dieu, mais on va explorer ensemble ce que Dieu veut et peut nous dévoiler de sa personne magnifique et extraordinaire. Et en particulier, aujourd'hui, je veux qu'on regarde la personne admirable et étonnante qu'est le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu. On l'appelle la troisième personne, pas parce qu'il est moindre que les deux autres. Il y a le troisième rang, il y a la médaille de bronze. Non! Non, il est égaux, il est de même essence, il est de même identité que les autres, il est Dieu aussi, mais c'est simplement parce que le Père est révélé, le Créateur est révélé en premier, ensuite Jésus vient dans les Évangiles et le Saint-Esprit nous est révélé davantage dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Mais on va regarder cette troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui est aussi éternel, saint, juste, amour, tout-puissant, omniscient et présent partout, autant que le Père et le Fils. Il n'est ni supérieur ni inférieur au Père et au Fils. Ils sont égaux entre eux. Mais comme je n'ai que 30 minutes, 35 minutes, pour vous tourner nos regards vers le Saint-Esprit, je vous propose de regarder en particulier une œuvre, un travail que le Saint-Esprit fait, découvrir comment il agit, ce qu'il fait et ses caractéristiques importantes dans son action envers nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de regarder cette œuvre importante pour nous, pour toi, pour moi. Et je parle du miracle que nous appelons la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, qui est relié directement à son action dans nos vies pour notre salut, mais pour notre croissance spirituelle également. Combien savent que la nouvelle naissance, c'est le plus grand et plus important des miracles. Amen. C'est le plus grand et plus important des miracles que tu peux expérimenter dans ta vie. Les trois personnes de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont impliquées dans nos vies, sont impliquées dans le salut de notre âme. Je dirais de cette façon simple, le plus possible, de décrire les implications de Dieu telles qu'on le voit sur la prochaine diapo. Le Père a conçu et promis le plan du salut de toute éternité. Depuis toujours, Dieu a prévu, a pensé, a conçu un plan de salut pour l'humanité. Le Fils est venu exécuter et accomplir ce plan de salut en mourant sur la croix, en vivant d'une vie sainte et pure, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts il y a environ 2000 ans. Mais depuis ce jour, le Saint-Esprit applique et concrétise le salut de Dieu dans nos vies par le miracle de la nouvelle naissance. Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes et plusieurs chrétiens aussi qui ont de la difficulté à définir ce miracle, à définir qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance, à la décrire, à la présenter. Et même s'ils l'ont vécu eux-mêmes, ce miracle de la nouvelle naissance, plusieurs chrétiens ont toujours de la difficulté à dire en quoi ça consiste. Et pourtant, c'est le miracle et l'œuvre la plus importante que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Il n'y a pas de plus grand miracle que le miracle de la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle. C'est plus grand et c'est même plus puissant que la guérison d'un cancer en phase terminale. C'est encore plus grand de naître de nouveau que ça. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais c'est le plus grand miracle encore qu'une guérison surnaturelle. C'est plus grand et plus puissant que la guérison d'un aveugle qui n'aurait jamais vu de sa vie et qui, tout à coup, se met à voir. C'est plus grand, c'est plus puissant que la multiplication de nourriture. C'est plus grand et plus puissant que même s'il y avait une chute d'argent qui nous tombait du ciel directement. Là, il y en a qui disent « oui ». C'est plus grand que si tout le ciel déversait de l'argent. C'est même plus grand et plus important que la résurrection physique d'un mort, véritablement mort, et qui reviendrait à la vie, physiquement. C'est plus grand que ça. En fait, il n'y a pas de plus grand et de plus important miracle que la nouvelle naissance qui est opérée et réalisée par la personne merveilleusement divine qu'est le Saint-Esprit. Et pour nous aider à comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, comment elle fonctionne, on va directement aller aux paroles que Jésus lui-même a prononcées lors d'une conversation à huis clos, tard en soirée, avec un homme important du nom de Nicodème. Alors, vous me voyez venir, pour ceux qui connaissent leur Bible, on s'en va dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Alors, si vous avez une Bible papier, si vous avez une application dans votre téléphone, ou si vous voulez juste regarder sur l'écran, vous allez pouvoir suivre Jean chapitre 3. On commence au verset 1 et on se rend jusqu'au verset 10. Il y avait un homme, membre du groupe des pharisiens, nommé Nicodème, qui était aussi un des chefs importants parmi les Juifs. Il vint voir Jésus en fin de soirée et lui dit, « Maître, nous savons tous que tu es un enseignant qui vient de Dieu, car tu ne pourrais pas faire tous ces miracles que tu fais si Dieu n'était avec toi. » Super compliment pour commencer. Et nous, on aurait dit, « Hey, merci, c'est génial que tu aies réalisé cela. » Non, non, Jésus lui répondit, « Écoute-moi bien attentivement, Nico. Je te le dis, si un homme ne naît d'en haut ou ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit avec étonnement, « Comment une personne pourrait-elle naître quand elle est déjà vieille? Elle ne peut pas entrer de nouveau dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois. » En fait, Nicodème sait très bien que ce qu'il suggère ne pourra pas arriver. Mais en fait, il est intelligent. Il n'est pas en train de présupposer qu'on pourrait faire ça. En fait, c'est une autre façon de dire, « Je ne peux pas tout recommencer à zéro. Je suis vieux, je suis engagé, il est trop tard pour moi, il est trop tard pour tout balancer, tout recommencer à neuf. » Alors, Jésus continue, lui, il lui répond, « En vérité, je te le répète autrement, si une personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est seulement de la chair, mais ce qui est né par le Saint-Esprit est esprit et vie. Ne sois pas étonné que j'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Et là, il continue avec un exemple, une métaphore. « Le vent souffle où il veut, et tu en vois les effets, tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il s'en va. » C'est la même chose pour ce qui concerne la nouvelle naissance. Alors Nicodème lui dit, « Mais alors, comment ça peut arriver dans la vie d'une personne? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Quelle conversation où Jésus parle de naître de nouveau. Littéralement, en grec, c'est naître d'en haut. Donc, une naissance qui est soulignée comme venant d'en haut. Mais Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et si je peux vous donner une définition la plus simple possible de ce que signifie la nouvelle naissance, vous pourrez en prendre note. Cette nouvelle naissance, je dirais que la nouvelle naissance, c'est simplement, ou miraculeusement surtout, la vie de Dieu qui est implantée dans l'esprit d'une personne. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est implantée, qui entre dans la vie d'une personne. C'est Dieu qui met immédiatement, c'est-à-dire sans délai et sans intermédiaire non plus, il met immédiatement la vie éternelle, sa vie surnaturelle dans une personne, cela quel que soit son statut ou sa position dans la société. Et la Bible dit alors que cette personne qui est née de nouveau est passée de la mort à la vie, littéralement. C'est une véritable résurrection spirituelle, de mort à la vie. C'est l'œuvre immédiate et surnaturelle du Saint-Esprit qui change, qui transforme un cœur de la façon la plus radicale, la plus profonde possible. Voyez-vous, la nouvelle naissance, ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de manière de penser, de minding. C'est même pas un changement d'église. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent changer leur façon de penser, changer leur comportement, changer de religion, changer d'église et pourtant ne pas naître de nouveau, ne pas être né de nouveau. C'est un passage de la mort à la vie. C'est là que ça doit débuter. Et selon Jésus, cette nouvelle naissance, elle est nécessaire et obligatoire pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit littéralement « en vérité ». Ça veut dire « attention, attention, ouvrez vos deux oreilles, ce que je vais vous dire est d'une importance capitale pour vous ». Il dit « à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu ». Ce qui signifie que l'être humain naturel ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu par ses propres efforts pour s'améliorer, par ses actes religieux, par ses bonnes résolutions du jour de l'an, par ses engagements, et je vais faire mieux la prochaine fois. Tout ça qui peut paraître bien ne peut pas apporter la nouvelle naissance. Selon les paroles de Jésus, si une personne veut entrer voir le royaume de Dieu, autrement dit, aller au ciel, elle doit nécessairement et obligatoirement naître de nouveau ou naître d'en haut par une action surnaturelle et puissante du Saint-Esprit que seul le Saint-Esprit peut faire, que seul le Saint-Esprit peut opérer. La nouvelle naissance pour devenir chrétien, ce n'est pas une option. Ce n'est pas « ben, je veux être chrétien, mais je ne veux pas naître de nouveau ». Être un chrétien, c'est être né de nouveau. Ça va ensemble, c'est un synonyme. Donc, la nouvelle naissance pour devenir chrétien n'est pas une option, n'est pas une alternative, ce n'est pas un moyen comme un autre pour aller au ciel. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Non, ce n'est pas juste, ah ben, si je suis sincère, peu importe ma religion, peu importe ce que je crois, si je suis sincère puis je fais mon possible, non. La nouvelle naissance, c'est un must, c'est une nécessité, c'est une obligation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Et ça, c'est sans équivoque, c'est sans appel, ce n'est pas ouvert à la négociation, ce n'est pas ouvert à la discussion, ce n'est pas un débat, ce n'est pas voici ce que je pense, puis voici ce que tu penses. C'est pourquoi l'homme naturel, le non-chrétien, ne comprend pas les choses de Dieu. Rappelez-vous, avant d'être né de nouveau, avant d'être chrétien, comprenez bien, ne comprenait rien à tout ça. C'était une folie pour nous, parce que nous étions morts aux choses de Dieu, aveugles aux choses de Dieu. L'homme naturel ne peut pas comprendre avec son intelligence les choses du royaume de Dieu, parce qu'il faut une révélation divine. Amen. Il faut la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, « Sois pas étonné que je te dise ça. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que... » Comment Jésus pourrait être plus radical et plus intentionnel? « Il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est impératif, c'est requis, c'est fondamental, c'est exigé pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Point final. Alors la question se pose, es-tu né de nouveau? Es-tu né d'en haut par l'action surnaturelle du Saint-Esprit? Parce qu'il le faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est nécessaire. C'est une naissance nécessaire. Deuxièmement, c'est une naissance miraculeuse. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est pas juste, j'ai décidé de changer de pensée, je vais aller à l'église, lire ma Bible, puis prier. Puis... Non, c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Être un chrétien, c'est un miracle. C'est pas juste une adhérence à une croyance, c'est un miracle. Et seul le Saint-Esprit peut faire naître une personne de nouveau. C'est un miracle divin, surnaturel, qui vient d'un autre monde, d'un autre royaume, le royaume ou le domaine de Dieu. Et ça ne vient pas de nous, ça ne peut pas être produit par nous. C'est un miracle. Jean 3 nous parle de la nouvelle naissance en citant les paroles de Jésus, mais Jean en avait déjà parlé deux chapitres auparavant, au chapitre 1er, versets 12 et 13. Il avait écrit ceci, « Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et ceux-ci sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, blanc dans les dents, mais de Dieu. » Ils ne sont pas nés. Remarquez avec moi que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le niveau horizontal. Ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme. Autrement dit, ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas une question de sanguin. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que tes parents étaient chrétiens, que tes grands-parents étaient chrétiens, que tu es automatiquement un chrétien. Ce n'est pas la volonté, par la volonté de soi ou de l'ego. « Ah, je vais me prendre en main, là, j'ai décidé là, aujourd'hui, là, c'est assez. » Ce n'est pas une question de ça non plus. Ce n'est pas par la volonté d'un autre être humain comme moi qui voudrait le meilleur pour vous ou de qui que ce soit d'homme. Ce n'est pas par le sang, par la volonté de la chair ou par la volonté de l'homme. Rien à voir avec le plan horizontal. La nouvelle naissance a tout à voir avec le plan vertical. Et Jean dit... Ce n'est ni par, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas que c'est impossible, ce n'est pas que c'est inaccessible, mais ça vient de Dieu. Cette nouvelle naissance vient totalement de Dieu. C'est un don de Dieu qui vient d'en haut vers le bas. C'est une création surnaturelle au cœur, aux racines même de l'être humain. Ce n'est pas une amélioration de nos vies. Ah, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à lire la Bible, ah, je vais commencer à donner à l'offrande, ah, j'ai arrêté de consommer des substances toxiques. Même si tout ça est bien et bon, ce n'est pas ça qui va vous faire naître de nouveau. Ce n'est pas ça qui va vous faire naître de nouveau. Remarquez avec moi à qui Jésus adresse ses paroles sur la nouvelle naissance. On pourrait dire, ah, il me semble qu'il faut, ça irait bien pour quelqu'un qui vit dans le crime, qui vit dans le péché, dans la débauche. Non, il parle à Nicodème, un pharisien de la plus haute moralité possible. Il n'y a comme pas personne au-dessus de lui au niveau moral. Il est un chef parmi les chefs. Il est le docteur d'Israël. Jésus ne dit pas ces paroles-là à un voleur, une prostituée, un pimp, un meurtrier, un chef de gang de rue, un tueur à gages. Il dit ces paroles à un homme qui croit en Dieu, qui prie, qui va au temple, qui donne sa dîme, qui jeûne au moins deux fois semaine et qui même reconnaît Jésus comme venant de Dieu. Wow! C'est à lui que Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Malgré tout ce que tu fais, Nicodème, malgré tout ton, à l'extérieur, tout ce que tu parais bien, puis probablement tu es un homme bien, mais tu dois naître de nouveau quand même. Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut, tu dois naître par la puissance du Saint-Esprit. C'est le miracle dont il a besoin obligatoirement pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, le dit ainsi, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. » Amen. Oh, merci Seigneur pour cette création que Dieu crée. Et ça, c'est un miracle que seul Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. C'est le miracle qui transforme une vie de la tête aux pieds, qui transforme une vie du cœur au cerveau, des pensées aux actions, parce que c'est un miracle radical. C'est un miracle nécessaire, c'est un miracle, c'est une naissance obligatoire. C'est aussi, c'est un miracle, hein? C'est une naissance qui est un miracle qu'on ne peut produire par nous-mêmes, mais aussi c'est une naissance radicale. La nouvelle naissance, c'est un miracle radical qui se produit au plus profond de l'être humain. C'est le cœur humain qui est changé, qui est transformé miraculeusement, qui est ramené en fait à la vie de mort qu'il était. Et plusieurs centaines d'années avant même que Jésus parle de la nouvelle naissance, le prophète Ézéchiel avait prophétisé de la part de Dieu qu'il viendrait un temps où Dieu allait justement faire ça. Et vous allez voir le texte qu'on va lire dans Ézéchiel chapitre 11 et au chapitre 36, comment Nicodème, et c'est pourquoi Jésus est étonné que Nicodème ne sache pas ces choses, parce que déjà, dans le prophète Ézéchiel, Dieu avait annoncé une période où il allait le faire et comment il allait le faire. Dieu dit, chapitre 11 d'Ézéchiel, « Je leur donnerai un même cœur. » Prenez note des pronoms qui va le faire. « Je, dit Dieu, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et fassent ma volonté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Au chapitre 36, un peu plus loin, Ézéchiel reprend encore, inspiré par l'Esprit de Dieu, « Je répandrai sur vous une eau pure. » C'est exactement le texte auquel Jésus fait référence quand et si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il fait référence à ce passage d'Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos péchés, de toutes vos injustices et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, en être d'eau et d'esprit. Et je ferai en sorte, et j'aime juste cette petite expression, que lorsqu'on est né de nouveau, Dieu fait en sorte que nous puissions suivre ses ordonnances et faire sa volonté. La nouvelle naissance, le miracle le plus important pour toi, pour moi, pour nous, nous touche dans la partie la plus intime et la plus profonde de notre être, le cœur. Notre cœur. Le prophète annonce et prophétise un temps où Dieu va opérer une œuvre miraculeuse, surnaturelle, mais au cœur du problème, au cœur de la vie des êtres humains. Ôter le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui, on va dire, un cœur comme une roche. C'est un cœur insensible. C'est un cœur froid, endurci, indifférent, imperméable, impénétrable. En fait, c'est un cœur qui est mort. Et c'est le genre de cœur que tous les êtres humains ont à leur naissance, sans exception. Sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, va dire l'apôtre Paul plus tard. Mais Dieu dit, je vais ôter ce cœur de pierre et je vais faire une opération à cœur ouvert. Je vais prendre ce cœur de pierre qui est mort, insensible, endurci, impénétrable et imperméable. Je vais l'enlever et je vais mettre un cœur de chair à l'intérieur. Et un cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible. C'est un cœur qui bat. C'est un cœur qui ressent. C'est un cœur qui a un pouls. C'est un cœur qui agit, qui réagit, qui reçoit et qui donne, qui perçoit les choses de Dieu. C'est un cœur né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est un cœur de chair. Alors, comprenez-vous pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit, que vous naissiez par la puissance du Saint-Esprit. Les religions du monde cherchent à changer le comportement des gens, Mais le Saint-Esprit, lui, change les cœurs. Les cœurs de Pierre, il met à la place un cœur de chair. Le problème de l'humanité, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de religion. Ah, tu n'es pas dans la bonne religion, etc. Ce n'est pas une question ou un problème de perception, de philosophie ou de psychologie. Le problème de l'humanité, c'est un problème de cœur. En fait, comme le disait quelqu'un, le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Le cœur du problème de l'humanité, c'est pas qu'ils sont pas dans la bonne religion, ils ne sont pas dans la bonne église, ils n'ont pas les bonnes croyances. C'est un problème de cœur. Le cœur doit être changé. Tu peux donner toutes sortes de techniques et de stratégies pour améliorer leur vie. Ça ne va pas les emmener au ciel. Ce qu'ils ont besoin, c'est de naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. La solution, la réponse, c'est un changement de cœur que seul le Saint-Esprit peut faire et opérer. C'est une naissance, c'est un miracle radical en profondeur dans le cœur de l'homme et de la femme. Quatrièmement, c'est une naissance efficace. La nouvelle naissance, c'est une naissance obligatoire, nécessaire. C'est un miracle, cette nouvelle naissance. Elle est radicale, elle va au fond du cœur, elle n'est pas superficielle. Et dernièrement, c'est une naissance qui est efficace. Jésus poursuit donc sa conversation avec Nicodème en utilisant une métaphore intéressante pour tenter de décrire justement la puissance et l'efficacité de ce miracle de la nouvelle naissance et de l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Et il utilise le vent. Il dit « Le vent souffle où il veut. » Autrement dit, ce n'est pas toi qui décides. « Et tu en entends le bruit. » Mais tu ou l'effet, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il s'en va. Et Jésus dit, c'est la même chose avec la nouvelle naissance d'une personne. Jésus fait un jeu de mots ici entre esprit et vent, parce que dans la langue originale, le grec du Nouveau Testament, le grec commun, le mot esprit et vent traduisent le même mot grec pneuma. Okay. Un pneu, c'est de l'air, c'est du vent, c'est la même chose, c'est esprit et vent. C'est le même mot grec. Alors, Jésus est en train de dire, si on transforme ou on change le jeu de mots, Jésus est en train de dire à Nicodème, l'Esprit agit où il veut. Et tu peux en voir les effets. Tu en entends le son, mais ce n'est pas toi qui le contrôle. C'est le Saint-Esprit qui contrôle et qui décide d'agir avec sa puissance là où il veut. Et l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne, c'est à l'image du vent. Comme le vent, l'action du Saint-Esprit, prochaine diapo, est indépendante et autonome. Autrement dit, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il le fait, il est indépendant et autonome. Il est aussi comme le vent, l'action du Saint-Esprit est irrésistible et efficace. Il ne fait pas de tentative qui échoue. Ah, j'aurais bien voulu le faire naître de nouveau, mais sa famille ne voulait pas. Je n'ai pas réussi. Non, le Saint-Esprit n'échoue pas dans ce miracle de la nouvelle naissance, comme Jésus n'a jamais échoué non plus lorsqu'il voulait performer un miracle. Comme le vent, l'action du Saint-Esprit est invisible et insaisissable. On ne peut pas le contrôler. Comme le vent, l'action du Saint-Esprit est impénétrable et mystérieuse. Je ne comprends pas tout. Comment la nouvelle naissance, comment le miracle se produit. Mais je sais une chose, il se produit. Et ça, on rend grâce à Dieu pour ça. Quand le Saint-Esprit agit dans le cœur d'une personne, il ne manque jamais son coup. Quand ce qu'il commence à faire, il le termine toujours. Il n'est pas comme nous. Nous, ça nous arrive de... On commence quelque chose, on était bien motivé, puis en cours de route, hein, on n'a pas fini. Il y a peut-être des épouses aujourd'hui qui donnent un coup de coude à son mari, hein, je te l'avais dit, il fallait que tu termines ce que tu avais commencé et vice-versa. Mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qu'il ordonne, arrive toujours. Ce qu'il commence à accomplir s'exécute toujours. Le Saint-Esprit est d'une efficacité remarquable et magnifique toujours et tout le temps. Amen. Il fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire. L'apôtre Paul le dit de cette façon dans Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre de grâce la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et je remercie, je loue le Saint-Esprit et toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que tout ce que Dieu fait, il le fait toujours à merveille. Il le fait d'une façon magnifique et parfaite et toujours efficace. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Jésus qui commence et qui termine toujours ce qu'il a commencé à faire? Je termine en vous présentant rapidement quels sont les effets miraculeux de cette nouvelle naissance. Comment on sait? Comment on voit? Jésus dit, c'est comme le vent. Tu sais pas d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le son. Tu vois des effets du vent. Quels sont les effets, justement, miraculeux de cette nouvelle naissance? Jésus parle, il dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Autrement dit, si tu nais de nouveau, tu vas pouvoir voir le royaume de Dieu. Alors, quel effet miraculeux? Une nouvelle sensibilité, un nouveau sens. Tout à coup, des yeux qui s'ouvrent. Des yeux qui s'ouvrent. On voit quelque chose de nouveau. En étant né de nouveau par le Saint-Esprit, on voit, on commence à voir le royaume de Dieu. Nous voyons le monde différemment. On voit notre vie différemment. On voit les gens différemment. Nous avons un nouveau but également, qui est glorifier Dieu par nos actions, nos paroles, nos gestes, nos décisions et nos choix. On considère maintenant la volonté de Dieu comme plus importante que la nôtre. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Nous voyons la Bible différemment. Je me souviens, adolescent, je pense que j'étais attiré par le Saint-Esprit et j'étais allé emprunter une Bible au presbytère et on m'a donné une brique. J'ai demandé une Bible, j'ai reçu une brique. C'est pas comme ça, puis j'emmène ça à la maison, puis j'ouvre ça, je commence à lire. Il n'y a pas d'image. C'est écrit petit, c'est du papier pour rouler des cigarettes quasiment. C'est très fin, et je tourne ça, puis je commence à lire, mais je ne sais pas où commencer. Et je lis un peu partout, mais je comprends niette, zéro, rien. C'est voilé, je ne comprends pas ce que une semaine après, je suis allé retourner ça, merci beaucoup, c'était gentil, je l'ai terminé. Non, je ne comprenais rien. Mais lorsque je suis né de nouveau, à l'âge de 18 ans, que j'ai reçu Christ comme sauveur, que le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau, j'ai commencé à rouvrir ces pages qui étaient pour moi, avant ça, voilées. Et tout à coup, j'ai commencé à comprendre. C'était tout à coup dévoilé. C'était maintenant révélé. Je commençais à comprendre et à saisir. C'est devenu la parole de Dieu. Au lieu de juste de symboles et de mots, des lettres, les unes derrière les autres, c'est devenu la parole de Dieu pour moi. Elle était déjà, mais pour moi, elle était maintenant révélée. Et le Saint-Esprit, j'ai commencé à voir la Bible différemment. Elle est devenue parole de Dieu. On voit l'Église différemment. Ah, rappelez-vous avant, aller à l'Église. Aujourd'hui, on est de nouveau, aller à l'Église. C'est ma famille. C'est mes gens, c'est nous, on est ensemble, on a hâte de venir. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc à la maison du Seigneur, que ce soit à 9h ou à 11h30 la semaine prochaine. Hein? Nos sens spirituels sont maintenant en alerte. Tout à coup, on entend, on voit, on parle nos sens, on ressent, on désire le royaume de Dieu. Nouvelle sensibilité. Deuxièmement, une nouvelle identité. Jésus a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais autrement dit, quand tu es né de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu. Tu as tout à coup une nouvelle identité. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, des enfants du royaume, des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus. Nous sommes des saints en Jésus-Christ parce que nous avons été sanctifiés et mis à part par le Saint-Esprit. Nous sommes membres du peuple que Dieu s'est acquis par son propre sang. Nous sommes citoyens du ciel. Vous pouvez dire amen n'importe quand. Et notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous attendons le Seigneur Jésus lors de sa deuxième venue. Nous sommes des chrétiens et nous sommes reconnaissants et fiers d'être des chrétiens. Amen. Nous sommes fiers et reconnaissants que Dieu nous a donné ce nom d'être chrétiens. Et nous sommes, comme dit l'apôtre Jude dans son épître, nous sommes appelés, aimés et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes les serviteurs de Dieu pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes les fils et les filles de ce Dieu qui nous a rachetés, sauvés par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre identité en Dieu. Amen, amen. Le Seigneur, pour cette nouvelle identité que tu nous as donnée. Mais non seulement nous avons une nouvelle sensibilité, une nouvelle identité, mais aussi une transformation qui continue de l'intérieur vers l'extérieur. Comme Jésus a dit, nettoyez l'intérieur du plat et l'extérieur va se nettoyer. Une nouvelle créature par l'action du Saint-Esprit. Étant né de nouveau, nous sommes changés de gloire en gloire, de progrès en progrès à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit produit en nous son fruit, c'est-à-dire qu'il nous transforme pour être des personnes qui apportent la paix, qui procurent la paix, qui manifestent l'amour, qui ont un sourire sur leur visage. Es-tu heureux? Oui, dis-le à ta face aussi. Mets un sourire. Pourquoi? Parce qu'on a la joie de Dieu en nous en tout temps. Nous sommes des personnes qui inspirons la confiance, qui agissent, réagissent avec patience, douceur, contrôle de soi. Je vais dire, ouais, mais pas toujours. Oui, c'est vrai, même si le fruit de l'esprit n'est pas en maturité, pleine maturité dans nos vies, nous sommes en croissance. Nous sommes en développement perpétuel. Et lorsque nous péchons, parce qu'il n'y a pas personne qui ne pêche pas, mais lorsque nous péchons, tout de suite, nous ressentons à l'intérieur de nous l'attristement du Saint-Esprit. Et on se repent et on demande pardon et on s'excuse et on fait réparation là où on a besoin de le faire. Ces changements s'opèrent de l'intérieur vers l'extérieur. Nos cœurs étant purifiés, changés, nos actions, nos paroles, nos comportements le seront aussi transformés pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous aimons ce qui est bien. Nous détestons ce qui est mal. Nous courons après ce qui est saint. Nous poursuivons ce qui est pur et saint. Nous fuyons ce qui est péché aux yeux de Dieu. Es-tu né de nouveau? Es-tu né par le Saint-Esprit? As-tu été changé? Es-tu en train toujours d'être changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit? Peut-être tu te dis, ah, je ne suis pas sûr, pas certain, je ne sais pas. Combien de personnes ici sont mariées? Levez votre main si vous êtes mariés. OK, OK. Il y en a-tu qui hésitent? De lever la main. Non, si t'es marié, tu le sais que t'es marié. Puis si t'as tendance à l'oublier, il y a quelqu'un qui va te le rappeler. Alors, si je vous demande, es-tu marié? Vous répondez pas, je pense que oui. Mais je suis pas sûr. On est-tu marié? Je sais pas. J'espère que oui, mais est-ce quelqu'un qui peut vraiment le savoir? Est-ce que je pourrais être marié et pas le savoir? Peut-être des célibataires ici ce matin qui se demandent, hein, je serais-tu marié, puis je ne le sais pas. Non, quand vous êtes marié, vous le savez. Quand vous êtes né de nouveau, vous le savez aussi. L'apôtre Paul disait dans Romains, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau. On le sait qu'on le sait qu'on le sait. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Première épître de Jean nous rappelle à plusieurs reprises. Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'il a mis en nous son esprit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que le péché ne nous intéresse plus comme auparavant. Maintenant, nous aspirons à la sainteté. Il y a de nouvelles ambitions, de nouveaux désirs, de nouvelles impulsions à l'intérieur de nous. Nous savons. La présence du Saint-Esprit en nous ne passe pas inaperçue. Alors, je ne vous poserai pas la question qui tue, mais vous poser la question qui donne la vie. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Dieu, ce matin, t'appelle à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, dites-moi, mon pasteur, on est à l'église, là. Mais justement, Jésus a dit ça à Nicodème, un homme d'église, un homme du temple, des années qui venaient au temple. Et pourtant, c'est à lui que Jésus dit, et c'est à nous qu'il nous dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est pas une fréquentation d'église, c'est pas tout ça est bien, mais es-tu né de nouveau? C'est la question la plus importante à laquelle nous avons à répondre. Et Dieu nous appelle à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Dieu t'appelle à confesser tes péchés, à reconnaître ta condition de pécheur et que tu as besoin d'un Sauveur. Dieu t'appelle à mettre ta foi en Jésus pour ton salut, celui qui est mort pour tes péchés à cause de nos péchés et qui a payé la dette, le prix pour que nous soyons pardonnés, qui a accompli ce salut parfait. Et le Saint-Esprit, maintenant, qui nous convainc, qui te convainc de ta nécessité de naître de nouveau. et de venir à Jésus pour ton salut maintenant. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants et réfléchir à cette question? Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? As-tu reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur? As-tu été convaincu de tes péchés qui t'ont éloigné de Dieu? Viens à lui aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'appelle. Il y a cette conviction dans ton cœur. Il y a cet appel intérieur du Saint-Esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça retentit à l'intérieur de toi. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je n'ai pas vécu la vie que tu aurais voulu que je vive. Je me suis éloigné. Je reconnais mes péchés. Et j'entends ta voix qui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alors Seigneur, je te demande, fais le miracle maintenant en moi. Fais-moi naître de nouveau. Viens avec ta vie en moi. Je reçois Christ comme mon sauveur. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il est ressuscité pour que j'aie la vie. Je le reçois, je l'accepte, j'y crois maintenant et je te demande, Saint-Esprit, de faire ce miracle de la nouvelle naissance, de me faire naître à nouveau par la puissance de Dieu. Ôte mon cœur de pierre et mets un cœur de chair à l'intérieur de moi. Je crois ta parole prêchée ce matin et je te reçois. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Maintenant, je veux vivre pour toi parce que tu m'appelles personnellement, par mon nom. Viens. Je viens vers toi, Jésus, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.